ici Pierre Crenez qui parle de Nuremberg.
Le 30 septembre 1946, le radio-reporter Pierre Crenez est en Bavière, où il attend le verdict.
Dans la grande salle rectangulaire du palais de justice de Nuremberg, les 21 criminels de guerre ont pris place dans le pop, derrière leurs avocats, face aux 8 juges.
Dans cette Allemagne en ruine, le tribunal militaire international s'apprête à condamner les dignitaires nazis. Des criminels de guerre qui partageaient avec les collabos français une même vision du monde.
Il y avait un programme qui nous avait séduit. Travail, famille, patrie nous séduisait. C'est ce qui avait déterminé au départ notre engagement.
Quand le procès de Nuremberg s'ouvre, le 20 novembre 1945, Philippe Pétain, Pierre Laval et Joseph Darnan
commandement
ont déjà été condamnés à mort.
Premier rang, de la terre.
Les deux derniers ont même été exécutés.
Bonjour.
Dès le mois d'octobre.
Hey.
Vive la France !
La France occupe donc une place étrange parmi les quatre pays qui s'apprêtent à rendre la justice à Nuremberg.
L'audience est ouverte. Dieu bénisse les États-Unis et l'honorable tribunal.
Car si le tribunal militaire international aspire à châtier les nazis, rappelons que l'État français a choisi la collaboration avec le Troisième Reich dès 1940.
Cette collaboration doit être sincère. Elle doit comporter un effort patient et confiant.
Et que les collabos réfugiés à Sigmaringen, dont Pétain et Laval, ont été complices jusqu'au bout de ces criminels de guerre. Alors, comment la France s'est-elle retrouvée parmi les juges ? En quoi ce procès de Nuremberg est-il inédit ? Que juge-t-on réellement en Bavière ? Et enfin, comment réagissent les inculpés face aux accusations ? C'est ce que vous allez découvrir dans cet ultime épisode.
Levez-vous.
Aujourd'hui, sereine mais impitoyable, la France accuse. Et les visages de ceux qui croyaient faire de l'ouest de l'Europe le jardin de loisirs de l'Allemagne victorieuse sont clairs.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le Crépuscule des Bourreaux. Huitième épisode, le procès des damnés.
Vous avez ployé le genou en terre en signe de dévotion envers le maréchal en qui la France s'incarne.
Tentons maintenant de nous approcher du wagon DSS. Aux fenêtres pendent à côté de drapeaux tricolores les drapeaux noirs marqués des deux SS en forme d'éclair.
Est-ce que ça vous gêne si on dit que en 1941 vous étiez un jeune fasciste ?
Non, ça ne me gêne pas.
Bon.
Les jeunes, après moi, vive le
Paris-Saint ! Je parle de Pétain, je parle de Laval.
Je souhaite la victoire de l'Allemagne.
Et je parle de Sigmaringen. C'est un moment de l'histoire de France qu'on voit venir.
Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable.
Ici Nuremberg.
La France vous demande que justice soit faite.
Willkommen im Nürnberg, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dieser Zug endet hier, bitte alle Fahrgäste aussteigen.
Le récit débute le jeudi 27 mars 2025. En cette fin de matinée d'un printemps naissant, Martin Abbat, notre reporter, arrive en gare de Nuremberg. Martin a pris le train aux Aurores à Paris, gare de l'Est, et elle a voyagé en compagnie d'un historien.
Alors, ouais, de quel côté ?
Guillaume Mouralis, je suis chercheur au CNRS, historien et sociologue, et je me suis intéressé en particulier au procès de Nuremberg, auquel j'ai consacré un livre en 2019.
Guillaume Mouralis et Martin Abbat ont emprunté en 2025 le même chemin que toute la presse française à l'automne 1945.
Journal L'Humanité, 20 novembre 1945. Ce matin à Nuremberg commence le procès de l'Allemagne hitlérienne. Le train qui nous a amenés traversait, dans le duché de Bade, le Württemberg et la Franconie, de riches campagnes allemandes. Les labours et les semailles d'automne paraissaient partout terminés. Des ribambelles d'enfants frais et joufflus, chaussés de cuir et habillés de chaud lainage, accouraient le long de la voie ferrée. Au bout du voyage, le palais de la justice de Nuremberg et le procès à la face du monde des plus grands bandits que la terre ait portés.
Tenez, regardez, c'est le palais de justice. Il est remarquable à plus d'un titre. Il a été touché par 5 bombes, mais il a tenu le coup.
À mon commandement, garde à vous.
Et ce palais de justice de Nuremberg est toujours bien présent, 80 ans plus tard.
Ça doit être l'entrée, non ?
Là, on fait face à la façade du tribunal.
Donc c'est un bâtiment en pierre, voilà, de taille.
C'est ça, un bâtiment typique de l'architecture prussienne, administrative et judiciaire de la fin du 19e siècle, en pierre de taille. Et c'est dans ce tribunal que se trouve la salle 600 qui a accueilli le procès de Nuremberg.
Cette salle 600 fut en activité jusqu'en 2022. Aujourd'hui, c'est un lieu de mémoire. Alors, entrons dans le tribunal.
Alors, on rentre. Alors,
à l'entrée, on a l'indication Schwurgericht, qui veut dire cour d'assises.
Dans le hall de ce palais de justice, on trouve une grande reproduction d'une photo des accusés du procès de Nuremberg, entourés de leurs gardes américains et de leurs avocats allemands. Et face à eux, les juges.
Et c'est un lieu qui accueille toujours le tribunal.
Oui, c'est toujours le siège de la justice à Nuremberg, de procès, accueillant des procès d'assises.
Parmi les journalistes français qui viennent couvrir le procès à l'automne 1945, on croise Joseph Kessel, qui se souvenait très bien de l'histoire récente de cette ville allemande.
Cette ville qui avait servi de sanctuaire au culte nazi, où chaque année, avant la guerre, dans une débauche d'oriflamme, de chants, de cuivre, de feux géants, de parades et d'emphases monstrueuses, Hitler hurlait ses commandements, ses anathèmes et ses prophéties aux foules accourues, cette ville ancienne et magnifique n'était plus qu'un amas horrible de ruines et tellement informe que ses habitants eux-mêmes n'en reconnaissent plus le tracé.
Alors, première question. Pour quelles raisons les Alliés et les Soviétiques ont-ils choisi cette ville en ruine pour ce procès ?
En fait, le choix de Nuremberg comme lieu du procès international s'explique par plusieurs raisons. Politique, d'une part, on est en zone d'occupation américaine et les Américains tiennent à avoir la main et à contrôler l'organisation du procès. D'autre part, il se trouve qu'à Nuremberg, le palais de justice est en état d'accueillir ce procès. Il est ressorti intact de la guerre. Et ensuite, évidemment, le choix de Nuremberg répond aussi secondairement à des raisons historiques et symboliques, puisque Nuremberg est une des grandes villes du mouvement national-socialiste. C'est ici qu'ont été adoptées les lois de Nuremberg de 1935, parmi elles la loi de protection de l'honneur et du sang allemand, une des principales lois raciales définissant l'appartenance à la communauté du peuple aryenne et excluant tous ceux qui n'y appartiennent pas. Et par ailleurs, Nuremberg était le lieu de grands rassemblements annuels à la gloire du parti.
De la fraternité, de l'amitié virile, de la communion nationale. C'était un spectacle impressionnant de force. Tout ce peuple allemand se soumet à une discipline joyeuse et on le sent capable d'accomplir une œuvre immense.
À Nuremberg, où le régime nazi organisait ses apothéoses, les criminels hitlériens connaissent leur châtiment. Après les ivresses du triomphe, voici la justice et l'expiation.
Les préparatifs de ce procès hors norme ont débuté fin mai 1945. Une tâche énorme, réalisée en un temps très court, sous l'égide des États-Unis.
Organiser un procès pour crime de guerre, on avait déjà tenté de le faire en 1919 et ça avait été un échec total.
Il n'y avait pas assez de charges. Il s'agirait cette fois-ci d'un tribunal international composé des quatre puissances, les États-Unis, l'Angleterre, la France et la Russie.
L'instauration du TMI, le tribunal militaire international, a été validée par un accord scellé à Londres le 8 août 1945 entre les puissances alliées et l'URSS. Cette juridiction spéciale a donc été créée pour châtier les dignitaires nazis avec quatre chefs d'inculpation définis par cet accord de Londres.
Les négociateurs de Londres prévoient quatre types de crimes.
Guillaume Mouralis.
Le premier et le plus grave d'entre eux, c'est ce qu'ils appellent les crimes contre la paix, c'est-à-dire les crimes d'agression. Le fait que l'Allemagne nazie ait envahi des pays souverains sans raison et en dehors de toute légitime défense, qui était le seul cadre qui permettait d'entrer en guerre contre un pays voisin. Et pour les Américains, il s'agissait du crime le plus grave. Aujourd'hui, rétrospectivement, on pense qu'il s'agit du crime contre l'humanité. Non, pour les Alliés et surtout pour les Américains, le crime des crimes est le crime contre la paix, c'est-à-dire le crime d'agression. Pour eux, tous les autres crimes découlent de ce premier crime.
Le 1er septembre 1939, Hitler annonce au Reichstag que depuis ce même jour, 5h45, l'Allemagne tire sur la Pologne. L'agression est commencée.
Donc, premier chef d'inculpation, crime contre la paix.
Donc, le deuxième, ce sont les crimes de guerre. Donc, des violations des conventions internationales qui protègent d'une part les soldats des armées belligérantes, et en particulier lorsqu'ils sont faits prisonniers de guerre, mais aussi effectivement les populations civiles qu'il s'agit de protéger dans la mesure du possible.
Ordonnance du Troisième Reich, 1941. Agir impitoyablement contre les provocateurs, les francs-tireurs, les saboteurs, les juifs, les bolcheviks, et détruire impitoyablement toute résistance, passive ou active.
Donc, deuxième chef d'inculpation, crime de guerre.
La troisième catégorie qui est tout à fait nouvelle, c'est la catégorie des crimes contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, en fait, c'est un crime qui prend en compte toutes les actions criminelles contre des populations civiles que ne couvre pas la définition plus classique du crime de guerre, en fait. Et notamment, les crimes commis par un pays contre ses propres ressortissants. La notion de crime contre l'humanité prévoit un certain nombre de persécutions pour des motifs raciaux, politiques, religieux. Et en cela, elle constitue une innovation importante, puisque c'est la première fois en droit international qu'est pris en compte la notion de crime à caractère raciste, racial ou raciste.
Actualité française, juin 1945.
Voici Buchenwald. La commission d'enquête nommée par le Parlement britannique a visité ce camp lors de sa libération. Elle y a trouvé les traces d'un crime immense. Dans cet enfer que n'avait pas prévu Dante, 5000 détenus mouraient chaque mois.
Troisième chef d'inculpation, crime contre l'humanité. Et puis, il en existe un quatrième, transversal aux trois premiers, à savoir la conspiration, et qu'on qualifie en français de complot criminel.
et qui désigne en réalité une entente, en fait. Un plan qui suppose une coordination entre des acteurs de haut niveau à l'intérieur d'une organisation, et ce complot criminel vise à commettre les trois autres crimes dont il est question, c'est-à-dire contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité.
Et en effet, Hitler et ses sbires ont bien fomenté un complot qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale et à ses atrocités.
Aujourd'hui, je veux être encore un prophète. Si la juiverie financière internationale parvient encore, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Europe, à plonger les peuples dans une nouvelle guerre mondiale, le résultat ne sera pas le règne planétaire du bolchevisme, et donc de la juiverie, mais bien l'annihilation de la race juive d'Europe.
Joseph Kessel, dans « Jugement dernier », 1995.
Faites-les sortir.
Pour la première fois, les hommes essaient de mettre en face de leurs actes et de leurs responsabilités ceux-là qui furent assez orgueilleux et assez féroces pour déchaîner les massacres géants sur la terre meurtrie et les villes croulantes. Pour la première fois, on sonde, en leur présence, jusqu'où la folie de l'ambition et le dédain du sang répandu et des corps ravagés par la famine peuvent aller chez certains meneurs de peuple et leurs serviteurs immédiats.
Par ailleurs, le mot génocide existe déjà en cet automne 1945. Mais qu'en est-il réellement à Nuremberg ?
Alors, le mot génocide n'est pas retenu comme crime défini dans les statuts. En revanche, le mot génocide émerge dans les débats, il est employé, et pour cause, ce terme est un néologisme inventé par le juriste juif polonais Raphaël Lemkin en 1944. Il mène toute une campagne au sein des équipes du procès de Nuremberg et il essaye de promouvoir et de faire reconnaître
ce nouveau
crime par génocide. Raphaël Lemkin entend la volonté intentionnelle de détruire un groupe suivant des critères raciaux, religieux, ethniques. Mais la différence donc, avec le crime contre l'humanité, c'est que dans le cas du génocide, il faut établir la volonté de détruire l'ensemble du groupe, dans son intégralité.
Ce nouveau mot est composé du grec génos, race, nation, tribu, groupement humain, et du latin sidere, tuer.
Raphaël Lemkin, Radiodiffusion française, 1948.
Dans l'information de ce mot, je me suis inspiré par un discours radiophonique de M. Winston Churchill, d'août 1941, qui s'est référé à la boucherie dont se sont rendus coupables les nazis au cours de la guerre. Churchill disait « Nous nous trouvons en présence d'un crime sans nom ».
Raphaël Lemkin
échoue
à ce moment-là, mais il réussit peu de temps après, puisque il parvient à ce que les Nations Unies adoptent une convention internationale de prévention et de répression du crime de génocide en décembre 1948. Convention qui est toujours en vigueur aujourd'hui.
Dans ce bâtiment, restez debout. C'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes.
En ce 20 novembre, nous allons ouvrir un procès qui est unique dans les annales de la jurisprudence.
Ce procès hors norme s'ouvre donc le 20 novembre 1945.
Monsieur le procureur général.
Le lendemain, le procureur américain Robert Jackson dans son costume noir, avec un mouchoir à carreaux en soie dans la poche de sa veste, enfonce le clou.
L'Allemagne devint une vaste chambre de torture. Les cris de ses victimes étaient entendus partout dans le monde et faisaient frissonner les peuples civilisés. Je suis un de ceux qui ont entendu la plupart des histoires d'atrocités pendant cette guerre avec doute et scepticisme.
Que pense le gouvernement américain du massacre massif de juifs ?
Nous avons demandé confirmation de ces rumeurs.
Pendant que vous vérifiez, 10 000 autres seront exterminés, tous les jours.
Mais la preuve, ici, sera si écrasante que j'ose prédire qu'aucune de mes paroles ne sera réfutée.
Martine Abbat et l'historien Guillaume Mouralis pénètrent dans la salle 600. À quoi ressemble cette salle d'audience en 2025 ?
Donc cette salle, elle est aujourd'hui recouverte de boiseries. Mmh. Il y a de grandes fenêtres, des lustres de verre. Ce qui est frappant, moi, ce qui me frappe, c'est la taille. Oui. Elle n'est pas très grande, cette salle.
Tout à fait. Oui, oui. C'est ce qui m'a frappé aussi la première fois que je suis venu. Les lieux m'ont paru assez exigus. Et il faut s'imaginer que dans cette salle, on a plusieurs équipes de juristes et plusieurs groupes qui sont juxtaposés. On a bien sûr les juges. Alors normalement, dans un dispositif classique de procès pénal, les juges sont au centre.
Et au fond.
Et au fond, sur une estrade surélevée. Or, il a été décidé ici, pour des raisons précises, de décaler le banc des juges vers la droite. Pourquoi ? Parce qu'on a réservé la place centrale à l'écran, puisque c'était sur cet écran qu'étaient projetés des films et des photos, mais aussi des diagrammes, des cartes, la carte des camps de concentration en Europe, etc., etc. Autant d'éléments qui venaient appuyer l'argumentaire des procureurs ou présenter des éléments de preuve contre les accusés.
If the tribunal please, we shall proceed with the projection of the film.
Le camp d'Ordruf est choisi pour une inspection du haut commandement menée par le général Eisenhower. C'est la 4e division blindée de la 3e armée de Patton qui a libéré ce camp au début du mois d'avril. Ils découvrent les baraques où sont entassés des cadavres couverts de chaux vives et dont se dégage une puanteur étouffante. Le général et sa délégation ont ensuite constaté l'horreur des crématoires faits de bois, un enchevêtrement de rails. Des restes calcinés de prisonniers gisaient encore sur ce grill.
Le Monde, 1er décembre 1945. Sur l'écran apparaissent les premières vues des camps de concentration. Mauthausen, Buchenwald, Dachau, Belsen. Vision d'horreur. La salle est plongée dans l'obscurité et les visages des accusés, éclairés par en dessous, ont quelque chose d'irréel.
Précisons que les victimes sont peu présentes dans ce procès de Nuremberg. On préfère projeter sur cet écran central des preuves écrites, des chiffres, des photos, des films qui paraissent plus fiables que des paroles. Les juges se méfient des émotions. Nous ne sommes pas encore entrés dans l'ère du témoin, selon l'expression de l'historienne Annette Wiewiórka. Une ère qui naîtra avec le procès Eichmann à Jérusalem en 1961. Durant le procès de Nuremberg, seulement 14 victimes prennent la parole, dont la Française Marie-Claude Vaillant-Couturier.
Ayez l'obligeance de lever la main droite. Je jure de dire toute la vérité sans rien y ajouter ni en retrancher.
Je jure.
Cette ancienne déportée communiste fait une déposition précise, traduite simultanément en plusieurs langues, et qui frappe les esprits dans la salle d'audience.
À Auschwitz, visiblement,
Le but était l'extermination. On ne s'occupait pas du rendement. On n'était battu pour rien du tout. Il suffisait d'être debout du matin au soir. Mais le fait qu'on porte une brique ou 10 briques, on se rendait bien compte que le travail, on utilisait le matériel humain que comme des esclaves.
You're going too fast. Sorry.
Pouvez-vous nous raconter la journée de Nuremberg, le jour de votre déposition?
La cour siège toute la matinée et l'après-midi jusqu'à 5 heures. J'ai l'impression que l'audition des témoins a apporté un peu de vie à ce procès sclérosé. Les accusés eux-mêmes s'endorment en général d'ennui.
Avez-vous pu observer les réactions des accusés?
Oui, j'ai eu la satisfaction de plonger mes yeux dans les yeux de Göring. Et j'avais l'impression que par ma bouche, c'est des millions de mortes qu'il accusait.
Marie-Claude Vaillant-Couturier a dû affronter le regard des accusés nazis dans leur box. Qui sont-ils?
Je regarde. Je recherche en moi le sentiment soulevé par la vue des criminels de guerre.
Le journaliste Pierre Crénès, 30 janvier 1946.
Ainsi voici donc la boue que les soubresauts du pangermanisme et d'une mégalomanie nationale avaient sorti de l'ornière. Voici les hommes que nous avons combattus. Voici les hommes qui portent la responsabilité, trop lourde pour eux aujourd'hui, de nos morts, de nos déportés, de nos martyrs, nos martyrs, nos martyrs.
Alors, il y a 24 accusés, dont 21 sont effectivement présents. Donc, ce sont les principaux dirigeants nazis encore en vie.
Guillaume Mouralis.
Et il y a notamment celui qu'on pourrait considérer comme le numéro 3 du régime, Hermann Göring, qui cumulait de nombreuses fonctions, dont celle de ministre de l'aviation. Et puis, on a toute une série d'autres dirigeants de premier plan, hein, comme Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères d'Hitler, d'autres figures de l'entourage direct d'Hitler, comme Albert Speer, considéré parfois comme l'architecte d'Hitler, chargé de la défense des côtes du Reich. Voilà pour les principaux accusés.
C'est-à-dire que ce sont des militaires, des ministres, des idéologues? Alors,
ce sont des membres de la direction politique national-socialiste, que ce soit des ministres, des dirigeants de premier plan du parti, encore en vie.
Et puis, il y a aussi des organisations
tout à fait.
Criminelles.
Oui, une des originalités ou une des particularités du procès, c'est d'accuser non seulement des individus, mais aussi, on pourrait dire, des personnes morales, que sont 7 organisations réputées criminelles, comme la Gestapo, la SS, le haut commandement de l'armée, dont une partie ont été condamnées en tant qu'organisation.
Alors vous êtes donc relié au micro qui est là-bas et à la sténographe en place.
Je suis placé à côté de vous.
Le Monde, 27 novembre 1945. Ils ont l'air très à leur aise. À l'exception de S, tous ont bonne mine. Göring, la mine débonnaire, a l'air de s'amuser prodigieusement. Tandis que Dönitz, placé derrière lui, conserve un air impassible. Baldur von Schirar, élégant comme toujours, ne se départ pas non plus de son calme. Neurath a l'air d'un fonctionnaire. Ribbentrop et von Papen, bien que vieillis, représentent encore bien le type du diplomate nazi.
Pour juger ces criminels de guerre, 8 magistrats siègent à Nuremberg, à savoir 2 par pays.
Attention, the International Military Tribunal will now enter.
C'est la cour du Tribunal Militaire International. Elle a la confiance de près de 2 milliards d'hommes de tous les continents, de toutes les races, de toutes les confessions. C'est la justice sans frontières.
La France est représentée par Henri Donnedieu de Vabre et son suppléant, Robert Falco, qui fut le négociateur français de l'accord de Londres. La présence française parmi les juges, malgré la collaboration du régime de Vichy avec les nazis, se justifie uniquement par le courage et les sacrifices de la résistance. Une résistance au nom de laquelle s'exprime François de Menton, le procureur français auprès du tribunal de Nuremberg.
La France, dont tant des siens furent torturés et assassinés dans les geôles de la Gestapo ou dans les camps de déportation, vous demande, au nom plus spécialement des martyrs héroïques de la résistance, qui comptent parmi les plus purs héros de notre épopée nationale, que justice soit faite.
You must plead guilty or not guilty.
Dans ce procès, où tous les accusés plaident non coupables,
nicht schuldig.
Nein, ich bekenne mich nicht schuldig.
Nicht schuldig.
Quel type de stratégie adoptent les avocats des dignitaires nazis?
La défense est-elle prête?
Oui, monsieur le président.
Un des arguments classiques, par exemple, c'est l'argument du tu quoque en latin, c'est-à-dire vous aussi, c'est-à-dire en gros, vous ne pouvez pas nous reprocher ce type de crime car vous les avez commis vous aussi. Ça, c'est une stratégie de défense vis-à-vis des soviétiques dont ils savaient, ces avocats, pertinemment qu'ils avaient commis des crimes comme le massacre de Katyn, attribué par les soviétiques aux nazis de manière mensongère, intentionnellement mensongère.
Donc c'est-à-dire que les crimes de masse ne sont pas l'apanage que des nazis.
C'est ça, ça a été un des arguments de la défense.
Par ailleurs, durant les débats, les avocats de la défense abattent une autre carte redoutable.
Ils ont trouvé en général un malin plaisir à signaler, par exemple, qu'aux États-Unis, il existait des dispositions ségrégationnistes contre des minorités, notamment et surtout les Noirs, les Africains américains à cette époque, et que donc les dispositions analogues prises contre les Juifs n'étaient pas l'apanage unique de l'Allemagne nazie. Les juristes nazis se sont inspirés des précédents qui existait dans le monde de législation à caractère raciste. Et il se trouve qu'un des principaux précédents, c'est le précédent états-unien. Évidemment, cette réalité n'a pas échappé aux avocats de ceux à qui on reprochait notamment des décisions et des crimes à caractère raciste.
Monsieur le procureur général, c'est à vous, allez-y.
Pour affronter les bourreaux nazis, le procureur en chef pour les États-Unis s'appelle Robert Jackson. Il a 53 ans quand débute le procès.
Avec la permission de la cour.
Et son rôle est crucial.
Le privilège d'ouvrir le premier procès de l'histoire chargé de juger les crimes contre la paix du monde implique de lourdes responsabilités. Imposes a grave responsibility.
La figure de Robert Jackson est une figure essentielle pour comprendre ce qu'a été le procès de Nuremberg, puisqu'il en a été une des chevilles ouvrières. Alors, Robert Jackson, c'est un juriste expérimenté qui, à l'époque où il est nommé procureur en chef des États-Unis dans le procès international de Nuremberg, est juge à la Cour suprême. Précédemment, au début des années 40, il avait été attorney general, c'est-à-dire ministre de la Justice des États-Unis. Donc c'est un proche de Roosevelt, un New Dealer, un démocrate. Et il pèse de tout son poids pour donner une certaine orientation au futur procès, pour que ce procès respecte les grands principes libéraux du procès équitable en vigueur dans les pays anglo-saxons, contre peut-être les tentatives, par exemple soviétique, d'organiser un procès spectacle qui rappellerait un petit peu les procès de Moscou des années 30. Donc lui veille à ce que ce procès se conforme à des principes démocratiques libéraux.
Si l'on considère que les nazis qui ont exécuté des gens sans procès sont des criminels, nous ne le serions pas moins si nous en faisions autant.
C'est ce que Truman pense lui aussi. Et Churchill s'est rangé à cet avis. Et le plus surprenant, c'est que Staline soit d'accord.
les accusés ont droit à un procès tout à fait équitable et sérieux, peuvent se défendre, et les jeux, surtout, ne sont pas faits à l'avance. Ça, c'est ça qui est important. On aurait pu s'attendre à ce que les accusés soient condamnés avant même d'avoir été jugés, compte tenu de la gravité des crimes qui leur étaient reprochés.
Veuillez vous lever.
Arrive alors le 1er octobre 1946, et peu après le déjeuner, le jugement est rendu.
L'échelle des peines est assez large. Il y a 12 condamnations à mort par pendaison sur 21 accusés présents. Et puis, il y a un certain nombre d'accusés qui écopent de peines de prison, allant de la prison à perpétuité jusqu'à des peines plus réduites. Et puis, il y a également 3 acquittements. Ce qui montre que les jeux n'étaient pas faits à l'avance et qu'il a été possible, d'une certaine manière, pour ces accusés de se défendre et de faire valoir leurs droits dans le cadre de ce procès.
Les accusés sont un peu plus pâles et plus tendus à mesure qu'approche l'heure fatale. Nous vous ferons entendre le verdict du procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international de Nuremberg.
L'audience est ouverte.
Séance du 1er octobre 1946, ouverte à 2h50. Le président.
Hermann Göring, death by hanging.
Accusé Hermann Wilhelm Göring, le tribunal militaire international vous condamne à la mort par pendaison.
Death by hanging. Defendant Hess, imprisonment for life.
Accusé Rudolf Hess, le tribunal vous condamne à l'emprisonnement à vie.
Joachim von Ribbentrop, death by hanging.
Accusé Joachim von Ribbentrop, le tribunal vous condamne à la peine de mort par pendaison.
Karl Dönitz, 10 years in prison. Erich Rader, imprisonment for life.
L'audience est levée.
Alors, en quoi ce procès de Nuremberg est-il inédit dans l'histoire de la justice ?
Ce procès constitue une rupture majeure dans l'histoire de la justice internationale, puisque c'est la première fois qu'on pose le principe d'une responsabilité pénale des dirigeants politiques les plus importants, des chefs d'État, alors que autrefois leurs actes étaient protégés d'une certaine manière par la doctrine de la souveraineté, qui les rendait irresponsables. Néanmoins, le procès international de Nuremberg et son cousin japonais, qui est le procès de Tokyo, n'auront pas de postérité immédiate. Le projet de créer un tribunal permanent qui se saisirait des crimes de guerre commis dans le présent, dans le monde entier, n'a pas pu voir le jour pour des raisons multiples, en raison de la guerre froide, d'une part, mais aussi et surtout parce que la plupart des puissances victorieuses du nazisme n'avaient pas intérêt à soumettre leurs actes souverains à une juridiction supérieure qui serait amenée à juger de leurs entorses au droit international, notamment les puissances coloniales, comme la Grande-Bretagne et la France. Mais c'est tout à fait le cas aussi de l'Union soviétique et des États-Unis. Et finalement, personne n'avait envie de se soumettre à un ordre juridique qui serait supérieur à l'État.
Enfin, notons que la création de ce tribunal de Nuremberg durant l'été 1945 a été percutée par l'ironie cruelle de l'histoire.
Oui, et on ne peut s'empêcher de penser à une formule du philosophe Günther Anders qui pointe avec force la contradiction de la politique américaine et alliée en 1945. Anders a qualifié le 8 août 1945 de date la plus monstrueuse de l'histoire. En effet, ce jour-là sont signés les accords de Londres qui créent le tribunal de Nuremberg et qui définissent pour la première fois le crime contre l'humanité. Or, ce texte est adopté le surlendemain du largage par les Américains de la première bombe atomique sur Hiroshima et la veille de la destruction de Nagasaki par une deuxième bombe atomique. Anders en conclut que le texte qui définit pour la première fois le crime contre l'humanité est immédiatement encadré par deux crimes de masse extrêmes du XXe siècle, puisque la bombe A ne laisse quasiment aucune chance de survie aux habitants.
C'est-à-dire que le crime qu'ils définissent ne s'applique pas à eux.
Oui, on définit le crime contre l'humanité en quelque sorte pour les vaincus de la Seconde Guerre mondiale, mais on n'imagine même pas pouvoir s'appliquer à soi-même ces nouveaux crimes définis en 1945.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base.
Nous approchons de la fin de cette série documentaire consacrée au crépuscule des bourreaux de la Seconde Guerre mondiale. Et avant de clore ce récit, retournons une dernière fois à Sigmaringen, où toute notre équipe s'apprête à remonter dans le train qui nous reconduit vers Paris. Nous avons passé trois jours étranges dans ce château du Bade-Württemberg où sont venus s'échouer les collabos français en septembre 1944. Assis face à moi, dans ce train qui quitte Sigmaringen, je propose à l'historien Henri Rousseau une dernière discussion.
Mesdames, Messieurs, le départ de notre train est imminent. Attention, la fermeture des portes, attention, les portes. Maintenant, nous serons dans notre train, et qu'il sera rapide pour vivre.
Henri Rousseau, nous venons de quitter Sigmaringen, nous sommes dans le train qui nous conduit vers Paris, c'est le train du retour. Une première question, Henri, nous avons passé trois jours ici à Sigmaringen, une ville que vous avez déjà fréquentée par le passé, une ville que vous connaissez bien par son histoire, j'entends la période 44-45 bien sûr. Quelles ont été vos impressions, Henri, en 2024?
Disons une double impression, une forme de familiarité, comme un historien peut l'éprouver lorsqu'il fréquente les lieux sur lesquels il travaille. L'historien travaille sur des traces, travaille sur des archives, travaille sur des photos, des images. Quand on est sur le terrain, ça change beaucoup de choses. Je dois dire d'ailleurs, c'est une incise, c'est quelque chose que je n'ai pas compris tout de suite. Il m'a fallu un peu de temps comme historien pour comprendre que les lieux avaient leur importance, la visite des lieux, la pratique des lieux avait leur importance. Je prends un exemple. On a beaucoup parlé de cette population de réfugiés qui s'entassent dans la ville. Quand on parcourt la ville de part en part et qu'on a mis à peu près un quart d'heure pour aller d'un bout à l'autre, c'est une image, mais c'est à peu près ça, on comprend bien ce que pouvaient être les conditions de peur, d'affolement, de promiscuité, de rivalité, etc. C'est quelque chose de très simple. Il faut voir les lieux, il faut les sentir. D'un autre côté, c'est un sentiment un peu inverse, une forme d'étrangeté. J'ai le sentiment, mais c'est normal, j'ai travaillé sur ce sujet il y a plus de 40 ans. Nous sommes aujourd'hui 80 ans après la fin de l'occupation et la fin de la guerre. J'ai envie de dire, a priori, cette histoire est passée. D'ailleurs, c'est assez frappant. Quand je m'y suis rendu les premières fois, c'était donc au début des années 80, le souvenir des Français de cet épisode un peu particulier était assez fort dans la ville. J'en ai fait l'expérience, j'ai rencontré des gens qui avait connu par exemple Céline, j'ai rencontré des habitants qui avaient abrité par exemple des miliciens.
Bon, alors tu poses la question et on y va.
Bon, on est en plein dedans là, donc vous êtes à Sigmaringen. Alors on fait une série de petites questions sur Sigmaringen, relativement court.
79, die erste.
Jörg Richter, 14 ans en 1944.
Für Sigmaringen, eine ruhige Kleinstadt, war natürlich der Einzug der.
Pour Sigmaringen, une petite ville provinciale, l'arrivée du gouvernement français en exil fut bien sûr un événement exceptionnel. On pensait qu'il se rendrait plutôt à Berlin.
Und so ist es natürlich klar, dass es für junge Menschen ganz besonders bewegend und aufregend.
Pour les jeunes gens comme moi, c'était donc enthousiasmant de voir quelque chose de nouveau.
Im Hitlerstaat irgendwo zu Disziplin und Uniform tragen und was weiß.
Nous avions été élevés dans la stricte discipline hitlérienne et nous étions curieux de rencontrer des Français au mode de vie totalement différent.
Deren Lebensart wir in irgendeiner Weise bewunderten.
Stop.
Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Il n'y a aucun souvenir, il n'y a rien, il n'y a pas de trace. Voilà, c'est une réflexion, c'est comme ça, c'est ainsi. Et pourtant, il y a peut-être une actualité. Voilà, le Sigmaringen, c'est quand même la fin d'une aventure très particulière, d'une guerre mondiale qui a été une guerre fondamentalement idéologique pour moi. Ce sont des systèmes idéologiques qui se sont affrontés, autant que des systèmes impériaux, si on peut dire, ou des puissances territoriales. Et ma foi, ce type de guerre n'a vraiment pas disparu de l'horizon. J'ai même envie de dire le contraire, c'est qu'elle est en train de réapparaître dans notre horizon.
Henri Rousseau est devenu l'un des grands historiens de la France de Vichy. Mais sachez qu'il a débuté ses travaux de recherche il y a plus de 40 ans en s'intéressant à l'épisode de Sigmaringen. Autrement dit, en commençant par la toute fin. Avec quelles conséquences pour lui ?
Ça m'a permis de commencer à appréhender ce qu'était le nationalisme, que la collaboration est une forme de nationalisme extrême, paradoxal, puisque c'est quand même ce nationalisme qui travaille avec l'ennemi. Et en fait, on peut le dire avec des mots relativement simples, je pense qu'un nationaliste, qu'il soit français par exemple, ou russe aujourd'hui, je dis ça au hasard, hein, préférera toujours à sa propre patrie un nationaliste d'un autre pays. Ce qui intéresse le nationaliste, ce n'est pas la France ou la Russie, mais c'est la nation comme concept d'organisation de la société. Et c'est un concept qui est, d'une certaine manière, profondément anti-républicain et profondément anti-démocratique, puisque la nation devient l'agrégat de gens qui ne sont plus des citoyens, mais membres d'un corps, ce qu'on appelle les théories organicistes. Avec la collaboration, et notamment à Sigmaringen, ça va jusqu'à la caricature. Voilà. C'est ça, et la caricature, souvent, par définition, permet de mieux comprendre les choses. Voilà. C'est en ça que Sigmaringen m'a, d'une certaine manière, aidé et accompagné par la suite dans mes travaux.
Compatriotes français, en ce 1er octobre 1944, nous allons voir se dresser dans le ciel nos trois couleurs au fait de ce monument chargé d'histoire que le gouvernement du Reich a bien voulu mettre à notre disposition pour la défense de nos intérêts nationaux. Je vous dis avec force toute ma reconnaissance au Führer. Et je vous crie, vive la France, vive le maréchal.
Enfin, quel regard porte l'historien sur la multitude de commémorations qui ont été organisées en France pour les 80 ans de la libération et de la fin de la guerre.
Il y a 8 décennies de cela, retentissaient les mots du général de Gaulle. La guerre est gagnée, voici la victoire.
C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France.
Vive le 8 mai. Vive la République et vive la France.
À quoi sert ce devoir de mémoire, ces commémorations à répétition de la Seconde Guerre mondiale qui sont certes nécessaires, qui entretiennent la flamme du souvenir, la flamme de l'héroïsme de la résistance? Oui, c'est formidable. C'est formidable si elles sont portées par un discours dont la perspective qu'elles auraient sur l'avenir sont en concordance avec ces valeurs. Et pour l'instant, je dois dire très honnêtement, je ne vois pas où est la concordance. On a d'un côté des politiques de mémoire, encore une fois tout à fait sympathiques et nécessaires, et de l'autre, du point de vue de l'action politique telle que l'on observe à la fois au niveau français, au niveau européen, quand même une très très grande incertitude. Je suis un peu pessimiste, c'est le citoyen qui est pessimiste. Mais souvent, je me dis d'ailleurs, à quoi ça sert, à quoi bon la mémoire, à quoi bon... Sans cela, ce serait pire. Sans cela, ce serait pire. On ne peut pas vivre sans avoir le sentiment d'une filiation. La mémoire, pour moi, ce n'est pas simplement la question de la reconnaissance qui est de l'ordre de la politique de mémoire, qui est de l'ordre de celle de l'État. La mémoire, c'est tout simplement essayer de comprendre ce qui du passé vit dans notre présent, bien sûr. À quelle filiation appartenons-nous? Et j'ai envie d'ajouter, la mémoire, c'est aussi un choix. On n'est pas obligé d'accepter tous les héritages de notre passé, on peut parfaitement faire le tri. C'est en cela que les notions de mémoire au sens contemporain du terme ont une importance. On ne prend pas tout, c'est pas vrai. ont choisi. Non pas d'oublier le reste, mais en tous les cas de favoriser telle ou telle façon de voir les choses. D'abord, l'histoire est fondamentalement, j'enfonce, pardonnez-moi, une porte ouverte, c'est un formidable réservoir d'expérience. C'est une formidable leçon à la différence. Les hommes du passé étaient différents de nous, et nous sommes différents de ce que seront les hommes et les femmes de demain. Donc, s'il y a une seule définition de l'histoire, je crois que c'est Marc Bloch, comme beaucoup d'autres historiens qui la donnent, c'est la science du changement, c'est la manière de comprendre, non pas simplement comment on est passé d'un état à l'autre, comment on a évolué, par exemple, des années 40 à aujourd'hui, mais comment les sociétés humaines sont par définition des sociétés qui changent, et ce qui est aussi, malgré mon pessimisme citoyen en ce moment, une façon de dire que rien n'est perdu et tout est à construire devant nous.
Pour conclure cette série documentaire, qui clôt notre grande fresque historique consacrée à la Seconde Guerre mondiale, que dire ? D'abord, retenez que l'épisode de Sigmaringen ne fut pas qu'un épisode anecdotique et romanesque d'un régime aux abois. En vérité, il nous enseigne une chose cruciale. La décision de s'enfuir en Allemagne, sous l'égide des nazis, nous révèle l'essence du nationalisme porté par l'extrême droite française depuis 150 ans. En s'exilant à Sigmaringen, les collaborationnistes français ont préféré les nazis plutôt que leurs propres compatriotes. C'est la leçon de cette histoire.
Mais non ! Les apparences sont trompeuses. Qui a été votre ennemi peut devenir plus tard votre plus sûr soutien.
Au nom d'une vision du monde commune, s'est déployée durant la Seconde Guerre mondiale une internationale nationaliste qui fait écho au temps troublé que nous traversons. Ensuite, ayez bien en tête que le choix de la collaboration, orchestré par Laval et Pétain, et qui s'est achevé de manière lamentable à Sigmaringen, ce fut le choix de détruire la grandeur de notre héritage républicain.
Je crache sur ta démocratie à la noix et sur ses principes d'égalité. Je vomis votre humanisme efféminé et votre sacro-saint libéralisme. On va où ça nous mène ?
La France s'incarne à la fois dans les églises de ses villages et dans sa tour Eiffel. Mais elle s'incarne aussi et surtout dans des valeurs immatérielles, telles la fraternité et la dignité humaine. Des valeurs que les ultras de la collaboration ont piétinées au nom d'une Europe nouvelle dirigée par les nazis.
En tout cas, nous avons toujours eu le même souci, servir la France. Et nous avons souhaité le succès de l'Allemagne.
Pour finir, je vais laisser les mots de la fin à celui que tous les collabos haïssaient par-dessus tout, le général de Gaulle. N'oubliez jamais que la colonie qui a échoué à Sigmaringen détestait de Gaulle, perçu comme un traître, puisqu'à leurs yeux, il proposait une version dévoyée de la nation. Dans son discours de Bayeux, prononcé en 1946, Charles de Gaulle trace une ligne d'horizon pour la société française. Organiser les retrouvailles des individus avec le collectif. Un défi pour le temps présent.
Nous avons à accomplir une rénovation profonde malgré d'immenses difficultés. Une rénovation qui conduise chaque homme et chaque femme de chez nous à plus d'aisance, à plus de sécurité, à plus de joie, et qui nous fasse tous ensemble plus nombreux, plus puissants, plus fraternels. Nous avons à conserver la liberté sauvée avec tant et tant de peine. Nous avons à assurer le destin de la France malgré tous les obstacles qui se dressent sur sa route et sur celle de la paix. Nous avons à déployer parmi nos frères, les hommes, tout ce dont nous sommes capables pour aider notre pauvre vieille mère, la terre.
Le crépuscule des bourreaux, un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Elsa Le Poivre, de la Comédie Française. Reportage, Martine Abbat. Assistance éditoriale, Irène Menahem, Fanny Petit et Alice Doucerin. Documentation sonore, Frédéric Martin. Prise de son à Sigmaringen, Gun, Gilles Gallinaro. Mixage, Basile Bocquer. Le Crépuscule des Bourreaux est un podcast original de France Inter.